L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.
Bienvenue sur Radio Orient. Aujourd'hui, c'est le quatrième et dernier épisode d'une série de L'Orient décrypté consacrée à l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth à l'occasion du 5e anniversaire de cette tragédie. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Perrin, écrivain, grand reporter, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Pierre Perrin, pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu les précédents épisodes, je rappelle que vous êtes retourné au Liban pour tenter d'en savoir plus sur cette double explosion dans le port qui a détruit une grande partie de la ville et fait plus de 235 morts et 7000 blessés. Pourquoi cette tragédie est-elle déjà entrée dans l'histoire? Parce que c'est la plus forte explosion depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que l'enquête du juge est entravée, mais aussi parce que plusieurs personnes ont été assassinées en lien, semble-t-il, avec cette explosion, notamment Lokman Slim, assassiné en février 2021. Et c'est l'objet de ce quatrième et dernier épisode. Jean-Pierre Perrin, vous avez fait le calcul, au moins 4 personnes ont perdu la vie parce que, visiblement, elles en savaient trop.
Oui, 4 personnes, alors peut-être qu'elles en savaient trop ou alors qu'elles se trouvaient là par hasard et qu'il n'aurait pas fallu qu'ils s'y trouvent. Hein. C'est le cas notamment de Joe Bejami, mais on en parlera sans doute. On va déjà parler plutôt de la personnalité la plus emblématique, Lokman Slim.
Justement, les assassinats politiques sont monnaie courante au Liban. Je pense aux assassinats de Rafik Hariri ou Samir Kassir en 2005. Mais cette fois, ces crimes ont visé des gens qui auraient pu parler, qui auraient pu expliquer qui a importé le nitrate d'ammonium qui a explosé dans le port. Parlons d'abord de Lokman Slim. Qui était-il? Quel rôle jouait-il dans la vie intellectuelle du Liban avant d'être assassiné?
Alors c'est un grand intellectuel, intellectuel chiite, mais totalement hostile au Hezbollah depuis toujours. Hein. On ne peut pas nier cet aspect de sa personnalité. Très engagé dans la défense de la vérité au Liban, c'est-à-dire de sortir du silence qui pesant sur nombre d'affaires. Et donc il a consacré sa vie, notamment à travers un centre qui est situé en pleine banlieue chiite sous contrôle du Hezbollah. C'est partie de son courage, mais aussi parce que c'était la maison familiale, une très, très ancienne famille, la famille de Lokman Slim, très, très enracinée dans l'histoire libanaise, très prestigieuse également. Et lui a toujours fondé un centre de documentation chargé de... Disons qu'il est un peu une des mémoires du Liban. Et avec une très belle bibliothèque qui, par sécurité, aujourd'hui, a été en partie déplacée en Suisse parce qu'il y a des trésors dans ses archives qui ne fassent surtout pas disparaître, peut-être en raison notamment des bombardements israéliens, mais peut-être aussi à cause du Hezbollah. Donc, Lokman Slim a notamment enquêté sur le massacre de Sabra et Shatila. Il a produit un film avec son épouse, sur les assassins de Sabra et Shatila, c'est-à-dire les tueurs. Il les a fait parler. Hein. Il raconte qu'il est venu avec des bouteilles de whisky et qu'il les a fait boire et qu'ensuite ils sont passés à la confidence. Et on a un document absolument étonnant sur les assassins. Et donc il a joué un rôle d'historien absolument irremplaçable. Et donc sa détermination à arriver à la vérité sur l'explosion du port est peut-être ce qui a motivé son assassinat.
Alors on l'a compris, Lokman Slim était connu pour son grand courage intellectuel. Il se savait menacé bien avant d'être assassiné.
Oui, il avait, après l'explosion du port, il avait lancé un appel à l'armée libanaise en lui disant « Ma famille et moi, nous nous plaçons sous la protection de l'armée libanaise. C'est à elle d'assurer notre sécurité. » Et donc, de veiller en sorte à ce qu'il ne nous arrive rien. Et donc, ça voulait dire qu'il se sentait menacé s'il a fait cette déclaration.
Et vous faites référence à une interview qu'il a accordée 20 jours avant sa mort.
Oui, alors, à une chaîne de télévision saoudienne dans laquelle il a mis la responsabilité d'explosion sur le compte du Hezbollah, ce qui peut-être lui a coûté la vie. On ne peut pas en être certain parce qu'en même temps, il a beaucoup enquêté aussi sur tous les trafics du Hezbollah. Et donc, ça peut être cette raison-là ou cette autre raison ou alors l'ensemble des raisons. Peut-être qu'il gênait trop le Hezbollah.
Lokman Slim a été enlevé et exécuté par ses ravisseurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de cet assassinat?
Oui, alors il a été invité à célébrer l'anniversaire d'un ami au sud du Liban. Il est donc allé seul en voiture. On sait par les caméras sur l'autoroute qu'il a été, dès son départ, suivi par des voitures. Donc on a pas mal d'éléments. On a évidemment une fausse plaque d'immatriculation, mais on a quand même le déroulé de l'opération. Les voitures qui le suivent, qui attendent qu'il sorte de la maison de son ami après l'anniversaire, le kidnapping, on l'emmène dans une autre localité libanaise, et là, il est assassiné de 6 balles, toutes tirées à moins d'un mètre de lui après ce kidnapping. Donc, on a énormément d'éléments, mais peut-être il nous manque simplement l'identité des tueurs, et là aussi, la justice n'a pas vraiment fait son travail, mais on vient de relancer l'enquête ces dernières semaines.
Alors, il a été exécuté, littéralement. On ne sait pas qui l'a assassiné, mais vous nous dites que la finule aurait pu fournir des images, puisque les casques bleus se trouvaient relativement proches du lieu de son exécution.
Oui, c'est ce que sa femme assure. Je relaie simplement l'impression de sa femme. Je ne suis pas convaincu que les images apporteraient beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vrai que la finule, dans son rôle extrêmement prudent, s'est tenue assez éloignée du dossier de Lokman Slim. Oui. Sa femme Véronica, qui mène un combat justement au quotidien à travers une association pour qu'on ait la vérité, pas seulement sur l'assassinat de son mari, mais sur l'assassinat de tous ces intellectuels libanais qui, depuis l'assassinat d'Hariri, évidemment, ponctue la vie politique libanaise.
Alors aujourd'hui, il y a énormément de questions sans réponse à propos des causes de l'explosion du 4 août 2020. Mais sur l'assassinat de Lokman Slim, on n'a pour l'instant aucun coupable. Il n'y a pas de nom pour l'instant entre les mains de la justice.
Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas ce dont dispose la justice. Mais pour sa femme, Véronica, qui suit vraiment au jour le jour l'enquête, eh bien non, il n'y a rien pour le moment.
Alors, avant la mort de Lokman Slim, Jean-Pierre Perrin, il y a eu 3 autres assassinats. Parlons d'abord de Joe Béjani, exécuté de 4 balles en décembre 2020. Quel est le lien entre son assassinat et l'explosion du 4 août?
Alors déjà, les circonstances de son assassinat, c'est-à-dire, il sort de chez lui, d'un petit village chrétien, pas très loin de Beyrouth, sur les hauteurs de Beyrouth, un village absolument tranquille, il se passe jamais rien. Et là, il sort pour amener ses 2 fillettes à l'école. Et à ce moment-là, quand il monte dans sa voiture, on a un tueur qui arrive avec le visage masqué par un casque de moto et qui lui tire dans la tête. Immédiatement après, il y a un deuxième tueur qui prend son téléphone portable, il s'enfuit. Il saute sur une moto qui est cachée dans les fourrés à côté et il disparaît. C'est un attentat évidemment mené par des professionnels. Un vrai commando. Aucune image. Simplement, on a quand même l'image de la vidéo de la maison qui montre ça, mais qui montre l'assassinat lui-même, mais aucune autre image sur qui pouvaient être les tueurs. Donc l'assassinat absolument parfait. Le commando ultra professionnel.
Alors, mais qu'est-ce qu'il a dit?
C'était simplement un ingénieur en informatique, était passionné de photos et il aimait aussi beaucoup l'armée. C'était un petit peu sa passion de documenter l'armée libanaise. Et donc, il avait passé un accord avec l'armée libanaise pour pouvoir faire des photos des défilés. Et ce qui l'a amené à prendre des photos de transfert d'armes de l'armée américaine à l'armée libanaise dans le port de Beyrouth. Et là, alors, on suppose, on est dans l'ordre des hypothèses, il aurait filmé peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dû filmer, et donc ce qui lui aurait coûté la vie. Ce qui est intéressant, c'est que la police, normalement supposée mener l'enquête, est arrivée, elle a confisqué les ordinateurs de sa femme et le sien, les téléphones, ceux qui le tueur n'avait pas emporté, et elle les a rendus absolument nettoyés, entre guillemets, de tout ce qu'il pouvait y avoir comme information, et elle n'a jamais voulu donné la moindre suite à cette enquête. Et non seulement ça, sa femme, qui a parlé à des journalistes, s'est vue menacée au point qu'elle a dû quitter le Liban, qu'elle est actuellement en France avec l'asile politique.
Donc on ne sait pas vraiment pourquoi il a été assassiné, mais il y a de forts soupçons sur un lien entre l'explosion et son assassinat.
Oui, en regardant son compte X, je me suis aperçu qu'il y avait une citation d'Orwell.
Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. Et c'est un post qu'il a mis le 18 août 2020, quelques jours après l'explosion.
Oui, quelques jours après l'explosion. Alors on sait qu'il se sentait menacé parce qu'il avait aussi demandé à pouvoir émigrer avec sa famille aux États-Unis. Et il a eu l'acceptation de... sa demande a été acceptée 4 jours avant son assassinat. Donc vraiment... les circonstances étaient malheureusement contre lui. En plus, je pense que c'était quelqu'un de très peu politisé. Et donc, il est vraiment payé de sa vie pour avoir été là au mauvais endroit, au mauvais moment.
Jean-Pierre Perrin, autre personne assassinée en lien avec l'explosion, Joseph Scaff. Alors lui, il était colonel des douanes. On peut dire que c'était un lanceur d'alerte. Et c'est la raison pour laquelle il a été tué.
Oui, probablement, il a été tué. On a maquillé son assassinat en accident, mais d'une façon tellement grossière qu'on pourrait en rire si ce n'est pas tragique. On a dit qu'il était tombé de la rampe de son parking, garant sa voiture. Or, ce qui est intéressant, c'est que Joseph Scaff avait annoncé les risques d'une explosion, enfin d'une catastrophe avec le nitrate d'ammonium engrangé dans le port. Il a donc écrit une lettre en ce sens.
Oui, c'était en février 2014. Il trouvera la mort dans des conditions suspectes en 2017, 3 ans avant l'explosion de Beyrouth.
Et peu après avoir écrit cette lettre, il a été muté à l'aéroport de Beyrouth et en plus après, il a été assassiné. Donc c'est quand même extrêmement troublant. Là encore, pas vraiment d'enquête. On a très vite clos le dossier, mais point d'interrogation qui pèse lourd quand même.
Autre point d'interrogation, un autre colonel, Mounir Abou Rjeli, a été assassiné et il travaillait avec le colonel Scaff.
Oui, le 1er décembre 2020, oui, ils étaient collègues et lui aussi a été assassiné, là encore, dans sa maison de campagne. Alors on a dit que c'était... des rôdeurs, des voyous qui voulaient le dépouiller et qu'ils l'auraient tué à cette occasion. Mais là encore, la zone est considérée comme très très paisible, il n'y a pas de délit particulier. Et comme lui aussi était très lié à l'histoire du port, on peut penser que là encore, il s'agit d'un crime politique, justement pour essayer d'empêcher la vérité de surgir de l'explosion du port.
Alors, c'est vrai que depuis le début de cette série d'émissions, on se pose de nombreuses questions. Pour les avocats des parties civiles, il est clair que ce n'est pas un accident, que c'est un crime intentionnel. Mais qui dit crime dit responsable. Quelles sont les hypothèses qui circulent actuellement? On a parlé du Hezbollah, on a parlé de la Syrie. Est-ce que c'était dans l'intérêt du Hezbollah et de la Syrie de faire exploser ce nitrate d'ammonium? À qui a profité le crime en quelque sorte, même si ce ne sont que des hypothèses que vous pouvez bâtir au micro de Radio-Orient.
Alors ce qui fait réfléchir, c'est quand même toutes les entraves qui ont été mises par les autorités, par une partie de la classe politique, par des partis aussi, pour empêcher qu'on arrive à la vérité. Ça pose déjà des questions. Pourquoi tout se ligue pour empêcher la vérité d'émerger? Ça fait 5 ans quand même, on devrait savoir un minimum, avoir un minimum d'informations, qui a fait quoi et pourquoi. Donc ça c'est un premier point, ce voile de mystère sur cette explosion cache quand même beaucoup de choses. Bon, accidentel, personnellement je n'y crois pas, les avocats non plus, on a pu le croire au début, ça semble très peu probable. Criminel, sans doute, mais peut-être qu'il ne s'agissait pas de faire exploser le port, mais simplement d'attaquer et de détruire le hangar numéro 12 ou un hangar voisin, le numéro 9, à cause de son contenu. Donc ce n'est pas le Hezbollah qui a détruit ses propres stocks de nitrate, même si ce nitrate, il ne l'utilisait pas lui-même, mais il profitait donc à l'armée syrienne. Donc on peut imaginer une opération commando, par exemple. C'est ce que pensent un certain nombre d'avocats, qui pensent qu'il y a eu une opération commando destinée à détruire ce hangar numéro 12, à cause de son contenu. Alors on a suggéré des missiles sophistiqués que le Hezbollah venait de recevoir, probablement de l'Iran ou d'autres matériels. L'explosion de ce hangar aurait provoqué quelque chose qui a dépassé les intentions de ceux qui ont commis ce crime et qui aurait donc embrasé le port tout entier et provoqué l'explosion d'une partie de la ville.
Est-ce qu'on saura la vérité un jour ?
Alors, une avocate dit que c'est l'enquête d'une vie. Les implications, les ramifications, la complexité du dossier fait qu'il faudrait travailler des années et des années. Elle-même travaille beaucoup sur ce dossier, donc elle souhaite rester anonyme pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, elle ne travaille plus au Liban, elle enquête depuis l'Europe. Et donc, des personnes cherchent la vérité. Ce qui est aussi un phénomène aussi important, c'est que peu avant l'explosion, on a vu un certain nombre de voitures noires, sans plaque d'immatriculation, quitter précipitamment la zone du port. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait une menace imminente. Est-ce que c'était l'explosion qui menaçait ? Mais auquel cas, ça pose d'autres problèmes. Est-ce que c'était parce que un commando venait faire d'irruption dans le port ? Là encore, on a toutes ces questions à répondre. Et je crois que le juge Bitar a quand même encore beaucoup de travail devant lui.
Et selon vous, est-ce que des pays comme les États-Unis, comme la France, savent ce qui s'est passé ?
Probablement, oui. Je ne pense pas une seconde que les services secrets américains, français ou britanniques ne sachent pas qui est derrière cette explosion, qui est derrière la puissance qui est à l'origine de l'explosion. Alors évidemment, la question de la piste israélienne est la première qui se pose. Actuellement, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'aller, de preuves suffisantes qui permettent d'aller dans ce sens.
Et dès le mois d'août 2020, les autorités israéliennes avaient démenti tout lien avec l'explosion de Beyrouth.
Merci Jean-Pierre Perrin d'avoir éclairé et décrypté cette page d'histoire durant 4 épisodes, l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth. J'espère que nous aurons apporté quelques réponses à ces très nombreuses questions. Je rappelle que vous êtes écrivain, grand reporter, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Cet épisode et les précédents sont disponibles sur radioorient.com. Merci.
Merci à vous.
L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.